Orange Monnaie, le service de transfert, retrait d'argent et paiement par le mobile, vous souhaite une excellente année avec Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. En à peine 48 heures, le nord du pays a été le théâtre de deux attaques terroristes. Lundi, 4 militaires ont été tués. La veille, 10 civils ont trouvé la mort. Alors pourquoi la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader? Quelle doit être la riposte des autorités? Vous qui êtes sur place, dites-nous si les nominations il y a quelques jours d'un nouveau chef d'état-major général des armées et d'un nouveau ministre en charge de la Défense permettront d'enrayer ces attaques. 33 9 693 693 70. Vos commentaires également sur la page Facebook de l'émission, mais aussi sur le compte Twitter, le compte WhatsApp également. Le compte WhatsApp, notez bien ce numéro, 33 6 89 28 53 64. Des dizaines de réactions postées sur ce compte WhatsApp. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, vos questions. Pour mieux comprendre l'actualité, nous allons commencer avec Albert, qui nous appelle de Cotonou. Bonjour Albert.
Bonjour Juan.
Bienvenue, vous avez des questions après la démission de Carlos Ghosn de son poste de président de Renault.
Oui, si tu le permets, je voudrais d'abord remercier tous les acteurs qui sont autour de toi pour la préparation de cette émission.
Eh bien, merci de vos encouragements, ils vous écoutent et ils sont bien contents de vous entendre. Vos questions donc sur Renault et Carlos Ghosn.
Oui. Voilà, donc Carlos Ghosn venait de démissionner de la tête du groupe Renault-Nissan et deux Français nommés Thierry Bolloré et Jean-Dominique Sénat ont été nommés à la tête de Renault.
Oui.
Ma première question serait de savoir si cette nomination de Français, si ça ne va pas raviver la tension avec les Japonais.
Les Japonais de Nissan. C'est une bonne question, effectivement. Bonjour Bruno Faure.
Bonjour Juan, bonjour Albert.
Chef adjoint du service éco de RFI, on rappelle que très rapidement après son inculpation, Carlos Ghosn a été limogé par Nissan et Mitsubishi. Il a fallu attendre jeudi dernier pour que le conseil d'administration de Renault nomme une nouvelle direction avec désormais donc un tandem, un duo, comme le disait Albert. Le fait que ça soit deux Français, est-ce que ça ne risque pas de crisper encore un peu plus les Japonais?
Alors, c'est une excellente question que pose Albert, et c'est même tout l'enjeu de ce qui se passe en ce moment. Comment maintenir le niveau de coopération entre ces constructeurs français et japonais, cette alliance dont on parle depuis le début de l'affaire? On rappelle que c'est le numéro 1 mondial de l'automobile. Hein. Comment faire pour préserver un équilibre qui est rendu instable par la chute du chef qui avait les pleins pouvoirs? Vous savez, Albert, que les dirigeants de Nissan veulent justement récupérer un peu plus de pouvoir. Juste après la nomination de ce nouveau tandem à la tête de Renault, ils ont immédiatement saluer l'ouverture d'un nouveau chapitre pour le partenariat avec les Français. Un nouveau chapitre, c'est une façon de dire qu'ils veulent que ça bouge. Alors, est-ce que les dirigeants de Renault, qui, je le rappelle, détient 43% des actions de Nissan, est-ce que ce nouveau tandem français va accepter de lâcher un peu de lest? On verra. En tout cas, Jean-Dominique Sénard a promis d'engager des discussions avec Nissan et avec Mitsubishi. Nous ne pouvons être seuls, a dit le nouveau patron de Renault. L'alliance est totalement essentiel. Le nouveau patron de Renault veut retrouver, ce sont ses mots, une forme de sérénité après les derniers événements. Jean-Dominique Sénard, qui va d'ailleurs rencontrer son homologue japonais Hiroto Saikawa dès demain à Amsterdam, puisqu'il y a une réunion du directoire de l'alliance Renault-Nissan. Ce sera le premier face-à-face, la première explication. On va certainement parler de toutes ces questions de rééquilibrage en attendant de retrouver un nouveau patron pour chapeauter l'ensemble. Théoriquement, c'est Renault qui désigne le patron de l'alliance. A priori, les Japonais ne sont pas opposés, mais on verra.
Et Bruno Faure, on va suivre de près, évidemment, l'attitude de l'État français, qui est tout de même le premier actionnaire de Renault.
Et oui, et lui aussi a besoin de recoller les morceaux avec les Japonais. Le président Macron, qui était dimanche au Caire, en Égypte, a dit qu'il serait vigilant sur le maintien des équilibres. Il en a d'ailleurs parlé avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. C'est important pour la France.
Et vous aviez une autre question, Albert?
Oui, je voudrais savoir justement la place de numéro 1 qu'occupe le groupe Renault-Nissan. Est-ce que cette place-là a déjà connu un impact négatif par rapport dans cette crise-là.
Est-ce que la crise actuelle que traverse le groupe a un impact sur les ventes des véhicules, des voitures?
Alors, c'est un peu tôt pour le dire. Hein. Et c'est vraiment difficile à estimer. Est-ce que les consommateurs qui vont acheter une voiture, vous et moi, est-ce qu'on va délaisser une marque aussi réputée que Renault ou que Nissan? On va peut-être plutôt regarder le prix de la voiture ou sa qualité plutôt que la Fairgone. Ce qui est sûr, c'est que ça ne donne pas tout de même une bonne image de Renault, de Nissan et de Mitsubishi dans ce marché qui est hyper concurrentiel. On peut rêver mieux comme publicité, surtout quand il y a des révélations qui arrivent quasiment tous les jours. Nissan maintenant dans le collimateur du gendarme de la bourse américaine. Pour l'instant, pas d'alerte sur les ventes. D'ailleurs, Renault a battu en 2018 son record de ventes mondiales. On va voir maintenant ce qui va se passer en 2019. L'important, c'est de dire que ce n'est pas l'entreprise qui concentre les critiques, mais plutôt la personnalité de Carlos Ghosn et ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, puisqu'il est présumé innocent. Il n'a pas été jugé.
Carlos Ghosn inculpé, rappelons-le, pour malversation financière. Il est emprisonné au Japon. Albert, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, tout à fait. Je remercie beaucoup votre invité. Bonne journée à vous et à bientôt.
Et notre invité, c'est Bruno Faure, chef adjoint du service éco de RFI. 9h17 à Paris, vos questions, appelez-nous. 33 9 693 693 70. Senkun, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Vous nous appelez de Conakry, on vous écoute.
Merci Juan. Cette situation est un peu particulière. Le président Pierre Nkurunziza a porté plainte pour diffamation contre l'avocat belge Maître Mengen, l'écrivain burundais David Kakunzi et France 3 après la diffusion d'un reportage en 2016 sur le régime burundais. Alors j'ai quelques questions par rapport à cette situation. La première question, Bernard Mengen avait fourni à France 3 une vidéo qui n'avait pas été tournée au Burundi. Et quel a été le rôle de l'écrivain David Kakunzi? Que lui reproche-t-on?
Alors, c'est vrai que l'avocat belge et l'écrivain burundais ont comparu jeudi et vendredi dernier devant le tribunal correctionnel de Paris. Vous y étiez, Franck Alexandre?
Absolument.
Bonjour.
Bonjour.
Vous suivez les affaires judiciaires pour RFI. Senkun le rappelait, l'avocat belge et l'écrivain burundais sont poursuivis par le président Pierre Nkurunziza pour diffamation après la diffusion sur France 3 d'un documentaire, d'un reportage de 2 minutes diffusé en janvier 2016. France 3 est également visé dans cette affaire. Alors, on comprend bien ce qu'on reproche à l'avocat belge, puisque, vous allez nous le rappeler, c'est bien lui qui a transmis cette vidéo sur laquelle s'appuie ce documentaire, ce reportage de France 3, vidéo qui, finalement, s'est aperçue très rapidement, n'avait pas été tournée au Burundi.
Mais diffusée au Burundi. En fait, à l'époque, Bernard Mengen, qui est très en pointe dans la lutte contre les génocidaires, et reçoit quotidiennement des photos, des vidéos, d'exactions. Et il a très peur que la situation ne dérape au Burundi et que le pays vive la même chose, la même situation que 20 ans plus tôt au Rwanda voisin. Et donc il reçoit cette vidéo et là, si vous voulez, c'est un petit peu le making of de cette vidéo d'un acte génocidaire, c'est-à-dire qu'on voit des gens être torturés puis exécutés.
On voit atrocement. Des massacres qui sont attribués.
On voit 3 hommes se faire tuer, se faire d'abord torturer puis tuer à la machette. Donc les images sont extrêmement violentes. Généralement, on ne voit que des photos de massacres. Là, on voit des génocidaires à l'œuvre. Donc ça l'interpelle. Il questionne sa source. C'est une source très fiable, explique-t-il au tribunal, qu'il a sollicité à de nombreuses reprises. Et il demande l'origine de la vidéo. On lui dit ça vient de quelqu'un au Burundi qui travaille à un haut niveau, qui était sur place à Karusi. Donc il demande à joindre cette source originelle. Il l'a au téléphone. Mmh. C'est difficile parce que il la met en péril. Hein. Les communications téléphoniques sont écoutées. Donc il fait la démarche. Le journaliste de France 3 fait la même chose. Et en fait, il y a un petit quiproquo puisque on lui dit ça vient de Karusi, donc au nord-est de Bujumbura, mais la ville, c'est-à-dire que la source dit laisse entendre que ça a été diffusé à Karusi cette vidéo, mais dit pas qu'elle a été tournée sur place. Et eux l'interprètent comme ça. Mmh. Et donc voilà, ils se font en quelque sorte Piégé.
D'ailleurs, ils reconnaissent très vite, dès le lendemain de la diffusion de ce reportage, ils reconnaissent leur erreur. D'où, donc, il y a plainte du président Nkurunziza pour diffamation. On voit bien le rôle dans cette affaire, dans ce dossier de l'avocat belge. Mais que reproche-t-on à l'écrivain burundais?
Il était dans le sujet, tout simplement. Tous les gens qui ont approché le sujet ont été poursuivis. Et il y a 4 prévenus. Il y a Bernard Minguin qui a fourni les vidéos. Il y a le journaliste de France 3 qui a fait le sujet. Il y a la holding France Télévisions, et puis David Gakounzi qui a été interrogé dans ce sujet et qui disait, à la vue de ces images, la communauté internationale doit réagir. C'est tout. Donc vous voyez, il arrive vraiment en troisième rideau.
Donc poursuivi pour les propos tenus dans ce reportage.
Oui, c'est voilà. Ça. Oui, mais enfin, il disait pas grand-chose.
Ouais. Senkoun, vous avez une autre question?
Oui, Juan. Que risque l'avocat belge le fait qu'il reconnaisse sa responsabilité? Et est-ce que cela peut avoir des conséquences sur sa peine?
Il disait l'autre jour, lors de l'audience, vous étiez sur place, je vous ai écouté sur l'antenne de RFI, s'il y a quelqu'un à condamner, c'est moi.
Oui.
Que risque-t-il?
Alors, pénalement, il risque une amende, jusqu'à 12 000 euros. Mais surtout, a-t-il été entendu par le tribunal? Eh ben, visiblement, oui, car que dit l'accusation au moment de requérir? Elle dit, la mauvaise foi n'était pas établie, les faits ne visaient pas directement le président. Ce n'est pas lui qui était mis en cause, mais c'était l'État, donc il n'y a pas de diffamation personnelle. Et enfin, il entend bien les propos de Bernard Minguin, l'accusation dit, l'origine de la vidéo, mais c'était pas évident de déterminer son origine, malgré toutes les vérifications qui avaient été faites. Donc, la peine demandée, la relaxe générale pour tout le monde.
Verdict au mois d'avril.
5 avril
le
prochain.
Le 5 avril, pour être précis. Senkoun, a-t-on été complet dans nos explications?
Vraiment, oui, ça a été vraiment complet. Merci.
Eh bien, bonne journée à Conakry et merci à Franck Alexandre. 9h22 à Paris, 33 9 693 693 70. Nous allons à N'Djamena, d'où nous appelle Taneni. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour les auditeurs de RFI.
Vous avez des questions sur l'acquittement de la chrétienne Asia Bibi au Pakistan?
Oui, Juan, la Cour suprême au Pakistan a finalement confirmé l'acquittement d'Asia Bibi, chrétienne condamnée à mort pour blasphème en 2010. À ce sujet, j'ai des questions.
Oui.
Peut-on s'attendre à de nouveaux débordements comme lors de son premier acquittement en novembre?
Alors effectivement, c'est vrai que on s'en souvient lors de son premier acquittement, c'était le 31 octobre pour être précis, des milliers d'islamistes en colère étaient descendus dans la rue, ils avaient bloqué les principales artères du pays pour exiger la pendaison d'Asia Bibi. Bonjour Anne-Isabelle Tollet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente du comité international Asia Bibi, comité de soutien. Vous avez publié aux éditions du Rocher « La mort n'est pas une solution ». Taneni le rappelait à l'instant, hier, la plus haute instance judiciaire du Pakistan a donc rejeté cette procédure en appel contre l'acquittement d'Asia Bibi. Elle est donc désormais libre. Peut-on s'attendre à de nouvelles manifestations, à de nouvelles colères des islamistes au Pakistan?
Alors, on peut s'y attendre en effet, parce que le TLP, qui est le Tehrik et Labaik, qui est un parti extrémiste religieux, a appelé hier, à l'issue du verdict de la Cour suprême, de l'acquittement d'Asia Bibi, à de nouveau manifester dans tout le Pakistan. Mais il faut savoir que suite aux manifestations qui avaient eu lieu en novembre, où en effet le pays avait été complètement paralysé pendant 3 jours, eh bien, depuis, les autorités ont arrêté le chef de ce parti religieux qui appelle à manifester et qui appelle à la pendaison d'Asia Bibi, ainsi qu'une centaine d'autres membres de ce parti très radical et très violent, si bien que cet appel lancé hier par ce fameux parti, eh bien, n'a pas été relayé, puisque ce matin, à Islamabad, il n'y avait personne à l'endroit où il était question qu'il y ait une mobilisation justement de ces religieux pour faire appel finalement de cet ultime jugement. Mais pour autant, il faut souligner aussi, c'est important, que les médias pakistanais ont fait très attention à ne pas trop relayer l'acquittement d'Asia Bibi, histoire de ne pas à nouveau risquer d'embraser le pays.
Oui. Effectivement, et on se souvient évidemment de ces images très surprenantes il y a plus de 3 mois dans les rues de Pakistan. Vous aviez une dernière question, Taneni?
Oui, Juan, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'Asia Bibi puisse quitter le pays malgré l'hostilité du gouvernement?
Alors, en quelques mots, Anne-Isabelle Tollet, plus rien n'empêche Asia Bibi de quitter le Pakistan.
Non, le dernier obstacle judiciaire a été levé hier avec ce rejet d'appel qu'avaient demandé justement les islamistes. Donc la Cour suprême a tranché et désormais Asia Bibi est libre de quitter le territoire pakistanais. Je voulais juste préciser que le gouvernement n'était pas hostile à Asia Bibi. On ne peut pas dire ça comme ça, au contraire. Le Premier ministre Imran Khan a manifesté son soutien à Asia Bibi et la justice pakistanaise a montré son indépendance et son courage face aux menaces proférées par les extrémistes religieux en acquittant Asia Bibi et en refusant de la rejuger à nouveau. Donc là, désormais, le dossier est clos. Asia Bibi est libre de tous ses mouvements.
Et elle va pouvoir donc quitter le Pakistan. Plusieurs pays se sont déclarés prêts à l'accueillir. Le Canada, la France, on suivra évidemment la suite de l'aventure, de l'histoire d'Asia Bibi. Merci beaucoup, Anne-Isabelle Tollet, d'avoir été avec nous. Tanini, bonne journée à N'Djamena. On va terminer avec un sujet un peu plus léger. On va parler football et on va revenir sur les déboires de l'AS Monaco. Thomas Moulin du service des sports est à mes côtés. Bonjour Thomas.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Et on accueille Abdoulaye, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Thomas.
Nous vous écoutons.
Juan, après 3 mois et demi au poste d'entraîneur de l'AS Monaco, Thierry Henry a été suspendu pour manque de résultats. Mmh. Avec seulement 4 victoires sur les 20 matchs, comment expliquer ce manque de performance de la part de l'AS Monaco?
Ouais, Monaco d'ailleurs éliminé hier soir de la Coupe de la Ligue. Thomas Moulin, c'est vrai que la saison est catastrophique pour Monaco, que se passe-t-il?
C'est vrai que c'est assez surprenant parce que Monaco ne nous avait pas vraiment habitués à ça. Hein. Depuis sa remontée en Ligue 1 en 2013, le club a toujours fini sur le podium. Mais cette année, on sent quand même un manque de maîtrise de la part de l'équipe. Il y a plusieurs chiffres qui le prouvent. C'est la seule formation de Ligue 1 à n'avoir pas encore gagné à domicile. Et ça crée beaucoup de frustration et de nervosité chez les Monégasques qui sont l'équipe la plus sanctionnée du championnat. Ils ont déjà pris 6 cartons rouges cette saison, dont 2 pour Naldo qui est la recrue hivernale brésilienne en défense centrale, 2 expulsions en seulement 3 matchs. Donc ce sentiment de nervosité est les mêmes ressentis chez les nouveaux.
Ouais, faut dire que derrière ces chiffres, Thomas, c'est un club qui a mis en place tout de même une stratégie assez risquée.
En effet, c'est vrai que ces dernières années, leur politique, ça a été d'acheter des jeunes joueurs en devenir, quitte à les payer au prix fort, pour les faire jouer et après les revendre encore plus cher. Donc du point de vue économique, c'est un succès indéniable. C'est un club qui sait très très bien vendre. Donc les exemples Anthony Martial, Kylian Mbappé, vendu 180 millions d'euros au PSG. Bref, la liste est longue. Sur le plan sportif, il y a eu beaucoup de grands résultats. Il y a 2 ans, Monaco est champion de France devant le Paris Saint-Germain. Il atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais quelque part, on peut se demander aujourd'hui si les dirigeants ne sont pas allés un peu trop loin. L'an dernier, ils ont recruté des jeunes joueurs à fort potentiel de 16 ans, Pietro Pellegrini ou Willem Jubels, achetés près de 20 millions d'euros. Ce sont sûrement des excellents joueurs, mais pour l'instant, ils sont pas encore prêts. C'est bien normal pour le très haut niveau. Et quand vous perdez chaque année vos 2-3 meilleurs joueurs, sans leur trouver leur équivalent à l'instant T, ça paraît quand même assez compliqué. On peut se demander quand même si le modèle monégasque n'a pas atteint ses limites. D'ailleurs, les dirigeants ont commencé à faire leur mea culpa.
Et puis aussi un autre problème, et pas des moindres, c'est celui des blessures. On a compté jusqu'à une 15aine de blessés au cœur du mois de novembre. Très rapidement, on arrive quasiment à la fin. Abdoulaye, vous aviez une autre question?
Oui, Juan, actuellement 19e de la Ligue 1. Est-ce que c'est une bonne idée de reprendre Leonardo Jardim?
Alors, Leonardo Jardim, licencié au mois d'octobre, et le voilà qu'il revient à Monaco.
Mais justement, c'était un peu l'homme qui assurait cette continuité au projet sportif monégasque. Les joueurs partaient, lui, il restait. Il arrivait à chaque année à maintenir l'équipe à flot malgré des résultats, malgré des joueurs qui partaient chaque année. Cet été, il pensait partir, il a été moins impliqué dans la préparation, ce qui peut peut-être expliquer le manque de motivation et les pépins physiques de certains joueurs. Finalement, il est resté, mais démis en ses fonctions en octobre, mais il a toujours été proche de Monaco. C'est lui qui il a refusé des offres de propositions en Chine. Il a aussi convaincu Gelson Martins, la dernière recrue de l'hiver monégasque, de venir, alors même que Thierry Henry était encore en poste.
Donc on verra si dans les 4 prochains mois, Leonardo Jardim parviendra à éviter le pire pour Monaco, à savoir une relégation en deuxième division. Merci beaucoup, Thomas Moulin, d'être venu.
Merci.
Le temps passe très vite. On va rendre l'antenne et retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI. Et on revient dans 10 minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.